Le développement de la production et celui des revenus doivent progresser au même rythme dans mon empire. Voilà en substance ce que j'ordonne. Il n'y aura pas de difficulté de balance des paiements entre les diverses sphères d'influence, simplement parce que j'ordonne qu'il en soit ainsi. Je tiens à insister sur mon autorité en ce domaine. Je suis le consommateur d'énergie suprême et le resterai, vivant ou mort. Mon gouvernement, c'est l'économie. L'empereur Paul Muad'Dib, ordre au conseil.
« Je vais vous quitter ici, » dit le vieil homme en ôtant sa main du bras de Paul. « C'est à droite, la seconde porte avant d'atteindre l'extrémité. Va avec Cheikh Ouloud, Muad'Dib, et souviens-toi du temps où tu étais Ouzoul. »
Et il disparut dans la nuit. Quelque part, les hommes de la sécurité devaient l'attendre pour le conduire en un lieu où ils pourraient l'interroger à loisir. Paul le savait, mais il espérait que le vieux Fremen leur échapperait. Les étoiles brillaient au ciel et la première lune se levait derrière le bouclier. Mais il n'était pas dans le désert où l'homme peut se guider sur une étoile. Le vieil homme l'avait conduit dans un faubourg de construction récente. Paul reconnaissait au moins cela. Le sable venu des dunes proches emplissait la ruelle. Un peu plus loin, un globe suspenseur répandait une faible clarté, révélant que la ruelle était en réalité une impasse. L'odeur fétide d'un distillateur de récupération flottait dans l'air. Les conduits devaient être mal isolés et une part importante d'humidité était gaspillée dans la nuit. Ces gens étaient devenus bien négligents, se dit Paul. Riches d'eau, ils avaient oublié les jours anciens d'Arrakis, où l'on tuait un homme pour l'humidité de son corps. « Pourquoi hésiter ?» se demanda-t-il. Il a dit la seconde porte avant le fond de l'impasse. Je le savais sans qu'il ait à me le dire, mais il faut agir avec précision. Donc, j'hésite. Les échos d'une dispute lui parvinrent soudain de la maison à l'angle de l'impasse. La femme s'en prenait sans doute à son époux. La poussière s'infiltrait dans la maison. Est-ce qu'il croyait que l'eau allait tomber du ciel? Là où entrait la poussière, l'humidité disparaissait. Certains se souviennent, songea Paul. Il s'avança dans l'impasse et la voix coléreuse de la femme s'atténua. L'eau du ciel. Certains Fremen avaient vu l'eau du ciel sur les autres mondes. Lui aussi l'avait vue et il l'avait désirée pour Arrakis. Mais dans sa mémoire, il semblait que ce fût advenu à quelqu'un d'autre. On appelait cela la pluie. Il eut le brusque souvenir d'un orage sur son monde natal, la vision de lourds nuages gris dans le ciel de Caladan. L'électricité, les éclairs, l'air humide, les premières gouttes énormes qui tambourinaient sur les verrières. La pluie en ruisseaux dans les chenaux, la rivière grossie qui devenait boueuse derrière les vergers de la famille. Les arbres aux branches scintillantes sous les gouttes. Son pied rencontra un amas de sable, et l'espace d'une seconde, il se retrouva, enfant, marchant dans la boue après l'orage. Et puis ce ne fut que du sable. Ce ne fut plus que l'impasse balayée de vent où attendait l'avenir. La vie aride qu'il devinait tout autour de lui était une accusation. C'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as créé cette civilisation de guetteurs au regard sec, de conteurs qui ne savent résoudre les problèmes que par la puissance, toujours plus de puissance, et en détestent chaque parcelle. Sous ses pas, des dalles de pierre, il les reconnut. Elles avaient été dans la vision. Noir sur noir, à sa droite, une porte lui apparut. La maison d'Oseïm, la maison du destin. Une maison qui ne différait des autres que par le rôle que le destin lui avait assigné. Étrange que ce lieu dût rester dans l'histoire. Il frappa et la porte s'ouvrit aussitôt, révélant un atrium baigné d'une pâle clarté verte. Un nain regardait Paul. Un visage ancien sur un corps d'enfant. Une apparition que la vision ne lui avait pas révélée.
« Ainsi vous êtes venu, » dit le nain.
Il s'écarta. Il arborait un sourire tranquille et ne semblait pas impressionné.
« Entrez, entrez !»
Paul hésita. Tout correspondait à la vision, sauf le nain.
les visions, tout en demeurant exactes par rapport à l'infini du temps, pouvaient révéler des disparités comme celle-ci. Cette différence le mettait au défi de reprendre espoir. Il se retourna vers la rue, vers le reflet nacré de la lune qui apparaissait entre les ombres déchiquetées. La lune continuait de le hanter. Comment tombait-elle ?
Entrez, répéta le nain.
Paul s'avança, prêta l'oreille au bruit sourd des joints comme la porte se refermait. Le nain passa à côté de lui et le précéda, ses pieds démesurés claquant sur le sol. Il poussa la porte de treillage, ouvrant sur la cour intérieure, et dit « Ils vous attendent, sire !»«
Sire, » songea Paul, « il me connaît donc. »
Sans lui laisser le temps de poursuivre ses pensées, le nain disparut dans un passage latéral. L'espoir en Paul était un vent derviche, un tourbillon impalpable et rapide. Il s'avança dans la cour. C'était un lieu d'ombre et de malaise, où stagnaient les relents de la maladie, de la défaite. Cette atmosphère l'oppressait. Choisir un moindre mal, était-ce la défaite ? Se demanda-t-il. Jusqu'où s'était-il avancé sur ce chemin ? Une étroite ouverture en face de lui laissait filtrer un peu de lumière. Luttant contre l'impression de présence invisible et malveillante, Paul franchit le seuil et pénétra dans une petite pièce nue, dont deux murs seulement étaient revêtus de tentures hiéregues. En face de Paul, sous la plus belle de ses tentures, un homme était assis sur un coussin carmin. Une porte ouvrait dans l'un des murs nus, à gauche de Paul, et il distingua dans la pénombre, au-delà, une silhouette féminine. Prisonnier de la vision. C'était ainsi que les choses devaient se présenter. Mais où était le nain ? En quoi résidait la différence ? Par tous ses sens, il absorbait la pièce en une unique perception gestalt. Cette pièce, dans sa nudité, témoignait d'un soin permanent. Des clous et des crochets révélaient que des tentures avaient été ôtées des deux murs nus. Pour les produits de l'artisanat fremen, les pèlerins des mondes étrangers payaient des sommes énormes, Paul le savait. Pour les plus riches d'entre eux, les tapisseries du désert étaient de véritables trésors, les marques véritables du Hajj. Tout en ce lieu était une accusation. Paul posa son regard sur les deux tentures dont la trame apparaissait, et son sentiment de culpabilité augmenta encore. À droite, sur une étagère étroite, des portraits de Fremen étaient alignés. La plupart étaient barbus, vêtus de distis dont les tubes pendaient de part et d'autre de leur visage. Certains en uniforme impérial avaient posé devant des paysages exotiques, le plus souvent marins. L'homme assis sur le coussin carmin se racla la gorge pour attirer l'attention de Paul. C'était Hosseim, tel que Paul l'avait découvert dans la vision. Le large cou était devenu noueux. Le vieux Fremen ressemblait à un oiseau dont la tête eût été trop grosse pour un corps aussi frêle. Son visage était partagé en deux. Sa joue gauche n'était plus qu'un réseau de cicatrices entrecroisées sous un œil malade. Le côté droit était intact et le regard de l'œil bleu était net, intense. Dans ce visage, le nez était un incroyable fer de lance. Le sol de la pièce était recouvert d'un tapis usé. Des fils d'or subsistaient encore dans le dessin en camaïeu brun et marron. Le coussin sur lequel Hosseim était assis perdait son rembourrage, mais tout ce qui était métallique autour de lui brillait de l'éclat du neuf. Les cadres des portraits, comme le bord du rayon et le piédestal de la table basse qui se trouvait à droite. Paul porta son regard sur la moitié intacte du visage d'Hosseim et dit, ainsi qu'à un vieil ami et compagnon de siège, « Bonne chance à toi et à ta demeure. »
« Ainsi je te revois, Ouzoul. »
La voix qui venait de prononcer son nom tribal était celle, plaintive, fêlée, d'un très vieil homme. L'œil malade s'éveilla au-dessus de la joue de parchemin. La bouche se déformait à chaque parole, révélant des dents de métal. « Mouad'dib répond toujours à l'appel d'un fedaïkin, » dit Paul. La silhouette féminine apparut sur le seuil et dit «
C'est ce que prétend Stilgar. »
Elle avança dans la lumière. Paul eut l'impression d'avoir devant lui une version plus âgée de la Lirna copiée par le danseur visage. Il se rappela alors que Seim avait des sœurs mariées.
Les cheveux de celle-ci étaient marqués de gris et son nez étroit était celui d'une sorcière. Les stigmates calleux des tisserands apparaissaient sur ses pouces et ses doigts. Au jour du siège, toute femme frémène eût été fière de ces marques. Celle-ci tentait désespérément de les cacher dans les plis de sa robe bleue. Paul se souvint de son nom, Doré. Il se souvenait aussi de son image, mais de son image enfant, et non telle qu'il l'avait entrevue dans sa vision. C'était l'accent plaintif de sa voix qui avait déclenché ce souvenir. Enfant déjà, elle parlait en geignant. « Vous me voyez, » dit-il. « Serais-je ici si Stilgar n'était pas d'accord ?» Il se tourna vers Osseim. « Je porte ton eau, Osseim. Ordonne. » C'était le langage direct d'un frère de Sietch à un autre. Avec un tremblotement, Osseim hocha la tête. Cela semblait un effort excessif pour ce coup malingre. Il leva sa main gauche tachée de jaune et désigna son visage.
« J'ai attrapé ce mal sur Tarahel, Uzul. »
Sa voix était rauque.
Juste après cette victoire où nous avons tous...
Il fut secoué par une violente quinte de toux.
La tribu prendra bientôt son eau,
dit Doré. Elle s'approcha et remit en place les oreillers qui soutenaient Osseim. Puis elle le maintint par les épaules jusqu'à ce que la toux se fût calmée. Elle n'était pas vraiment âgée, se dit Paul. C'était simplement les espoirs déçus, l'amertume, qui éteignaient son regard et donnaient ce pli roide à sa bouche.
« Je vais faire appeler des docteurs, » dit-il.
Elle se retourna, la main sur la hanche.
« Il en est déjà venu, des médics aussi bons que ceux que vous pourriez envoyer. »
Involontairement, elle regarda vers le mur nu à sa gauche.
« Les médics coûtent cher, » songea Paul.
Il était vigilant. La vision l'enfermait toujours, mais des différences mineures avaient fait leur apparition. Comment pourrait-il les utiliser ? Le temps se dévidait avec de subtiles variations, mais l'ensemble de la trame restait immuablement oppressif. Il savait avec une certitude terrifiante que s'il tentait de briser le schéma qui le maintenait en ce moment, il en résulterait un terrible déchaînement de violence. La puissance contenue dans le cours tranquille du temps était effroyable.
« Dis ce que tu attends de moi, » grommela-t-il.
Osseim ne peut-il espérer la présence d'un ami auprès de lui quand viendra le moment ?»
demanda Doré.
« Se peut-il qu'un Fedaikin doive confier sa chair à des étrangers ?»«
Nous avons vécu ensemble au Sietch Taber, » se dit Paul. « Elle est en droit de me reprocher ma dureté. »« Je ferai ce qui me sera possible, » dit-il. Une nouvelle quinte de toux secoua le vieux Fremen. Après un temps, il réussit à marmonner
« Uzul, il y a trahison. Des Fremen complotent contre toi. »
Il continua de mouvoir les lèvres, mais sans produire aucun son. Il se mit à baver et Doré se pencha pour l'essuyer avec un coin de sa robe. Paul lut sur son visage la colère qu'elle éprouvait devant cette humidité perdue. Et il faillit s'abandonner à la fureur brusquement devant cette scène. « Osseim. » Mourir ainsi. Un Fedaikin mérite mieux que cela. Mais il n'y avait pas de choix possible. Pas pour un commando de la mort de l'empereur. Dans cette pièce, ils étaient en équilibre sur le fil du rasoir d'Ockham. Le moindre faux pas multiplierait les horreurs, non seulement pour eux, mais pour l'humanité entière, et même pour ceux qui les détruiraient. Paul rétablit le calme dans son esprit et regarda à nouveau Doré. Elle était penchée sur Osseim. L'avidité qu'il lut dans ses yeux le raffermit dans sa volonté. « Jamais Shaini ne me regardera ainsi, » songea-t-il. « L'Iran m'a parlé d'un message, » dit-il.
« Mon nain, » murmura Osseim. « Je l'ai acheté sur un monde, j'ai oublié. C'est un distrans humain, un jouet des Tleilaxu. Il a enregistré tous les noms des traîtres.
Il se tut avec un tremblement.
Vous parlez de l'Ihna, intervint Doré. Lorsque vous êtes arrivé, nous avons su qu'elle avait réussi à vous atteindre saine et sauve. Si vous pensez à ce nouveau fardeau que vous confie Osseim, l'Ihna est la somme de ce fardeau. Un échange honnête, Uzul. Prenez le nain et partez.
Paul réprima un haussement d'épaule et ferma les yeux.
Lihna. La vraie Lihna était morte dans le désert, déchirée par la Semouta, livrée au sable et au vent. Il rouvrit les yeux et dit « Vous auriez pu venir à moi n'importe quand ?»
Osseim s'est tenu à l'écart afin d'être compté parmi ceux qui vous haïssent, Ouzoul. C'est dans la maison qui se trouve au sud de celle-ci, dans cette rue, que se rassemblent vos adversaires. C'est pour cela que nous habitons ici.
Appelez le nain et nous partirons tous.
Vous ne m'avez pas bien écouté, dit Douré.
Il faut conduire le nain en un lieu sûr,
intervint Osseim avec une fermeté surprenante.
Lui seul porte les noms des traîtres. Personne ne le soupçonne d'être ce qu'il est. Tous croient que je ne le garde que pour me distraire.
Nous ne pouvons partir, reprit Douré. Seul vous et le nain quitterez cette maison. Tout le monde sait à quel point nous sommes pauvres. Nous avons dit que nous vendions le nain. Ils vous prendront pour l'acheteur. C'est votre seule chance.
Paul sonda les souvenirs de sa vision. Il avait quitté la maison avec les noms des traîtres, mais jamais il n'avait vu où étaient portés ces noms. Il était certain maintenant que le nain se déplaçait sous la protection d'un autre oracle. Il prit conscience alors que tous les êtres devaient porter quelque forme de destin gravé par les forces changeantes, par la détermination de l'éducation, de la disposition. Dès le moment où le djihad l'avait choisi, il s'était senti cerné par les forces de la multitude. Il était contrôlé par leur but. Pour le prisonnier dans sa cage qu'il était, l'idée de libre arbitre n'était qu'illusion. Sa malédiction était de voir la cage. Prêtant l'oreille, il perçut le vide de la maison. Il n'était que quatre, Douri, Osseim, le nain et lui. Il lui semblait que la peur des autres était une odeur forte. Il décelait les guetteurs tout comme la lointaine présence des ornis, et il y avait les autres, dans la demeure voisine. J'ai eu tort d'espérer, se dit-il. Mais le fait même de penser à l'espoir lui ramena le sens déformé de l'espoir, et il songea qu'il pourrait encore saisir son moment. Appelez le nain, dit-il.
Bijaz!
On m'appelle?
Le nain fit son entrée dans la pièce, l'air contrarié.
Bijaz, tu as un nouveau maître, dit Douri.
Elle regarda Paul et ajouta.
Tu peux l'appeler Ouzoul.
Ouzoul, la base du pilier,
dit Bijaz, traduisant le terme frémen.
Comment Ouzoul peut-il être la base quand je suis la seule base vivante?
Il parle toujours ainsi,
dit Osseim pour l'excuser.
Je ne parle pas,
poursuivit Bijaz.
Je manipule une machine appelée langage. Elle grince et grogne, mais elle est à moi.
Un jouet Tleilaxu cultivé et vif, se dit Paul. Jamais le Bene Tleilax ne se serait passé de quelque chose d'aussi précieux. Il observa le nain, soutint le regard de ses yeux ronds.
Quel autre talent as-tu, Bijaz? Demanda-t-il.
Je sais à quel moment il nous faut partir. C'est un talent que bien peu d'hommes possèdent. Il y a un temps pour les fins, et c'est un bon commencement. Alors commençons par partir, Ouzoul.
Dans la vision, il n'y avait pas eu de nain. Non. Mais les paroles du petit être correspondaient.
À mon entrée, tu m'as appelé Sire, fit-il remarquer.
Tu me connais donc?
C'est sûr, Sire, dit Bijaz avec un sourire. Tu es plus que la base, Ouzoul. Tu es l'empereur Atréide, Paul Mouad'Dib. Et aussi mon doigt?
Il leva l'index de sa main droite.
Bijaz!
Cria Douré.
Tu nargues le destin!
Je nargue mon doigt?
Protesta Bijaz d'une voix grinçante. Il désigna Paul.
Vois, je montre Ouzoul. Mon doigt n'est-il pas Ouzoul lui-même? Ou bien est-ce le reflet de quelque chose qui se trouve à la base?
Il approcha son index de son visage, l'examina avec un sourire moqueur sous tous les angles.
Mais ce n'est qu'un doigt ordinaire à la réflexion.
Il lui arrive souvent de délirer ainsi,
dit Douri d'un ton contrit.
Je pense que c'est pour cette raison que les Tleilaxu s'en sont débarrassés.
On ne peut me maîtriser, dit Bijaz. Mais pourtant j'ai un nouveau maître. Le doigt a des effets étranges.
Il se tourna vers Douri et Osseim
avec un regard bizarrement vivant. La colle qui nous lie, Osseim, est de bien mauvaise qualité. Quelques larmes en viennent à bout.
Il pivota sur lui-même et ses pieds raclèrent le sol. À présent, il faisait face à Paul.
Ah, mon maître! J'ai suivi une bien longue route avant de vous rencontrer.
Paul acquiesça.
Tu seras bon, Ouzoul?
Demanda Bijaz.
Je suis une personne, sais-tu. Les personnes revêtent bien des formes, bien des tailles. Mes muscles sont faibles, mais ma bouche est puissante. Je ne coûte guère à nourrir, mais il faut beaucoup d'argent pour me remplir. Vide-moi selon ton caprice. Il y a en moi plus que les hommes n'y ont mis.
Nous n'avons pas le temps d'écouter tes énigmes stupides,
grogna Doré.
Vous devriez déjà être loin.
Mon bavardage est fait de devinettes, et toutes ne sont pas stupides. Être loin, Ouzoul, c'est être passé, non? Ne revenons plus sur le passé. Doré dit vrai et j'ai aussi le talent d'écouter la vérité.
Lis-tu la vérité? Demanda Paul, déterminé à présent à suivre le déroulement de la vision. Tout était préférable à la destruction de ces instants et à l'apparition de conséquences nouvelles. Osseim devait encore dire certaines paroles, sinon le temps se trouverait dévié vers des embranchements encore plus terrifiants.
« Je lis l'instant, » dit Bijaz.
Le nain devenait nerveux. Se pouvait-il qu'il pressentît certaines choses en gestation? Se pouvait-il qu'il fût son propre oracle?
« As-tu demandé où était l'Irna ?»
Osseim fixait soudain sur Douri le regard bleu de son œil valide.
« L'Irna est en sûreté, »
répondit-elle. Et Paul baissa la tête, de crainte que son expression trahisse la vérité. En sûreté, l'Irna n'était plus que cendre au creux d'une tombe secrète. Osseim prit cela pour un acquiescement.
« C'est très bien, » dit-il. « Une chose bonne entre toutes les mauvaises, Ouzoul. Je n'aime pas le monde que nous avons fait, le sais-tu? Tout était meilleur quand nous étions dans le désert avec les Harkonnen pour seul ennemi. »
« La ligne est ténue qui sépare les ennemis des amis, » dit Bijaz. « Lorsqu'elle s'efface, il n'y a plus ni commencement ni fin. Finissons-en, mes amis. »
Il vint se placer à côté de Paul, se balançant d'un pied sur l'autre.
« Que lis-tu dans l'instant ?» demanda Paul. « L'instant ?»
Bijaz se mit à trembler.
« L'instant, c'est maintenant. Et maintenant ?»
Il agrippa soudain la robe de Paul.
« Maintenant, il faut partir. »
Il parle comme une crécelle, mais il n'y a pas de mal en lui,
dit Osseim avec tendresse.
Même une crécelle peut donner le signal du départ,
dit Bijaz.
Les larmes aussi. Partons pendant qu'il nous reste assez de temps pour commencer.
Bijaz, que redoutes-tu? Demanda Paul.
Je redoute l'esprit qui me cherche dans l'instant,
marmonna le nain. Il y avait de la sueur sur son front. Avec une grimace, il reprit.
« Je redoute celui qui ne pense point et n'aura d'autre corps que le mien, et celui qui est revenu en lui-même. Je redoute les choses que je vois et les choses que je ne vois pas. »
« Il a le don de prescience, » se dit Paul. Bijaz partageait avec lui l'oracle. Partageait-il aussi le destin de l'oracle? Jusqu'où allait son pouvoir? Était-il limité comme celui du tarot de Dune ou plus vaste? Et qu'avait-il vu?
« Bijaz a raison, » dit Douré. Il vaut mieux que vous partiez.
Chaque minute qui passe, dit le nain, prolonge le présent.
Chaque minute retarde l'heure de ma culpabilité, songea Paul. Il avait baigné dans le souffle empoisonné d'un verre. Il avait été pris dans la pluie de poussière de ses crocs, il y avait longtemps. Pourtant, le souvenir revenait. C'était comme une senteur d'épices, d'amertume. Quelque part, il le savait maintenant. Son verre l'attendait, le verre géant, l'urne du désert.
« Ces temps sont troublés, » dit-il, répondant tardivement aux reproches d'Osseim.
« Lorsqu'il en est ainsi, les Fremen savent ce qu'il faut faire, »
remarqua Douri. Et Osseim approuva d'un hochement de tête tremblant. Le regard de Paul se posa sur Douri. Il n'attendait nulle gratitude. Pour lui, ce n'eût été qu'un fardeau de plus. Mais l'amertume d'Osseim et le ressentiment passionné qu'il lisait dans les yeux de Douri ébranlaient sa résolution. Se pouvait-il que quelque chose vaille un tel prix ?
Attendre ne sert de rien,
dit Douré.
Fais ce que tu dois faire, Ouzoul,
souffla Osseim. Paul soupira. Les mots de la vision venaient d'être prononcés. Il y aura une solution, dit-il comme il le devait. Puis il se retourna et quitta la pièce. Derrière lui, il entendit le pas de Bijaz.
Passez, passez, marmonnait le nain. Que ceux qui sont passés tombent où ils peuvent. Ce jour fut mauvais.